Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polotech.
Et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Antoine Rivière, historien, maître de conférences et auteur d'une étude sur les enfants de confession juive recueillis par l'assistance publique de 1940 à 1945. Une étude qui a été commanditée par Serge Klarsfeld et Martin Hirsch. Et nous retrouvons également Charles Wasserstein, que nous avons déjà reçu la semaine dernière pour son livre de témoignages « Sauvé d'Auschwitz par l'assistance publique » publié aux éditions du CERCIL. Vous nous l'avons dit dans votre livre, Charles Wasserstein, on a de nombreux documents d'archives et notamment l'intégralité de votre dossier de l'assistance publique. Vous-même, vous racontez que ce dossier que vous avez reçu très tardivement, hein, en 2001, vous avez eu beaucoup de mal à l'ouvrir quand vous l'avez reçu.
Ah, tout à fait. J'avais demandé une attestation à l'assistance publique pour je ne sais plus quelle raison, peut-être pour toucher des indemnités, enfin, peu importe. Et quand je l'ai reçu, mais je l'ai reçu avec un énorme document, une grosse enveloppe, qui contenait mon dossier complet de l'assistance publique. Et donc, j'ai ouvert cette enveloppe et j'ai constaté que dedans il y avait des tas d'enquêtes sur mon père, sur ma mère, et sur le coup, je l'ai refermé. Je l'ai refermé parce que c'était très dur à accepter. J'avais fait un petit peu de chemin, j'avais un peu occulté la mémoire, ce côté de la mémoire, pour vivre pleinement. Et donc, en définitive, c'est bien plus tard, grâce à une association juive caritative où j'ai fait des commissions mémoire, que ça m'a un peu réveillé justement à ce sujet. Et là, j'ai commencé à développer, à regarder exactement les documents, et je me suis rendu compte qu'il y avait des documents inédits, extraordinaires, et qui étaient une grande richesse, qui m'apprenaient beaucoup sur ma famille.
C'est sur des dossiers comme celui-là, Antoine Rivière, que vous avez travaillé. Peut-être que vous pouvez nous parler de ce qui a généré votre étude, notamment l'histoire emblématique de Joseph Nadanowska, recueillie en 1942 à l'âge de 4 ans par l'assistance publique suite à l'arrestation et à la déportation de sa mère Auschwitz, et qui n'a jamais su qu'il était juif et qui a cru toute sa vie qu'elle l'avait abandonné. C'était une histoire édifiante.
Oui, l'histoire de Joseph, comme l'histoire de Charles, sont effectivement des histoires absolument passionnantes pour nous, historiens, et qu'on découvre effectivement à partir de ces dossiers qui sont très très riches en informations. Et en fait, effectivement, tout est parti de cette histoire de Joseph Nadanowska, qui est confié à l'assistance publique en juin 1942, et qui, toute sa vie, aura vécu dans l'ignorance des raisons pour lesquelles il s'était retrouvé à l'assistance publique et du sort de sa mère, et même dans l'ignorance du fait qu'il était juif, puisqu'il n'a jamais été mis au courant. Et c'est finalement après son décès que sa veuve a découvert, par hasard, dit-elle, que la mère de Joseph avait été arrêtée et puis déportée à Auschwitz, où elle n'est jamais revenue. Et à partir de cette découverte, effectivement, Monique Nadanowska a voulu en savoir plus, demander des comptes peut-être aussi à l'institution. Et elle a été soutenue dans un premier temps par Serge Klarsfeld, et qui a réussi à convaincre la PHP, et notamment Martin Hirsch, de mener une étude plus large pour savoir s'il y avait d'autres enfants dans ce cas-là, et s'ils avaient connu une histoire un peu semblable, ou si certains avaient pu découvrir leur histoire personnelle ou pas.
Alors, vous avez repéré 184 enfants de confession juive qui ont été confiés à l'assistance publique entre 1940 et 1944, 131 recueillis temporairement et une cinquantaine depuis de la nation. Mais vous estimez qu'on est loin d'un chiffre définitif?
Oui, alors il s'agit effectivement, il y a plusieurs catégories de l'assistance publique, il s'agit peut-être pas ici de rentrer dans le détail, mais effectivement on a une cinquantaine d'enfants, alors qui sont pupilles de l'État, hein, ce qui n'est pas la même chose que pupilles de la nation, oui, qui sont confiés à cette administration, en théorie, jusqu'à leur majorité. Et puis à côté de ça, vous avez des enfants qui ont transité par l'assistance publique, qui sont restés quelques semaines, quelques mois, certains quelques années, mais en tout cas qui étaient admis sous le sceau de caractère temporaire de leur présence à l'assistance publique. Et parmi ces différentes catégories d'enfants, on voit qu'effectivement, il y a des histoires qui parfois sont, se prolonge jusqu'après la guerre, certains enfants étant récupérés assez vite par leur famille, alors que d'autres restent aux mains de l'institution pendant longtemps, et certains essayant de connaître leur histoire, mais n'y arrivant pas toujours.
Pour quels motifs, en règle générale, ils ont été confiés ? J'ai l'impression que, comme dans le cas de Charles, beaucoup de parents sortent d'une hospitalisation, c'est ça ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. En réalité, quand on regarde les motifs pour lesquels ces enfants sont confiés à l'assistance publique, encore une fois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on en a identifié un certain nombre, il est probable qu'il y en ait d'autres. Bon. Mais ce qu'on regarde, nous, une fois qu'on a ces dossiers, c'est effectivement les motifs, les raisons pour lesquelles ils arrivent aux mains de l'institution. Et là, on est frappé par le fait qu'un certain nombre d'entre eux sont confiés à l'institution du fait de la misère noire dans laquelle vivent les familles. Hein, on a des familles qui sont essentiellement des familles originaires d'Europe de l'Est, beaucoup de Pologne, qui sont des immigrés de fraîche date, qui ont peu de relations à Paris, qui ont peu de relations, ça veut dire peu de relations pour trouver du travail, qui sont frappés très durement avant même la guerre par la crise économique des années 30. Et à première vue, on voit un certain nombre d'admissions à l'assistance publique qui sont presque des abandons ordinaires, si j'ose dire, c'est-à-dire des abandons de la misère. À côté de ça, évidemment, il faut relativiser, bien sûr, ce constat-là, parce qu'il serait tout à fait injuste de ne pas prendre en compte le contexte particulier de la guerre et le sort particulier de ces familles. Cette pauvreté, elle est évidemment aggravée jusqu'au tragique par les mesures de persécution prises contre la population juive, et les exclusions économiques qui frappent cette population amènent un certain nombre de familles, effectivement, à confier leurs enfants à l'assistance publique. À côté de ça, vous avez un cas de figure qui se rencontre aussi dans les motifs d'admission, et qui est les admissions qui sont causées par l'arrestation d'au moins un des deux parents. Hein, on voit qu'effectivement, un certain nombre d'admissions suivent de façon plus ou moins proche l'arrestation puis la déportation d'un des deux parents, et celui qui reste n'est souvent pas en capacité d'assumer seul la survie de l'enfant. Et puis enfin, il y a une...
Et ça, c'est noté dans le dossier, quand un des parents a été arrêté, quand...
Alors, c'est pas systématique. Hein. Les informations qui sont recueillies à l'intérieur des documents administratifs sont très variables d'un dossier à l'autre. Donc on a parfois des renseignements, parfois on est obligé de reconstituer les histoires, notamment à partir de récits qui sont faits après-guerre, par exemple par un parent qui, reprenant l'enfant, va raconter a posteriori les circonstances dans lesquelles cet enfant a été abandonné pendant la guerre. Mais voilà, on n'a pas, si vous voulez, un corpus identique d'un dossier à un autre, et on doit assembler le puzzle pour refaire l'histoire de ces enfants. Mais il se trouve qu'on a aussi un cas de figure qui sans doute pose question, c'est le cas des enfants qui sont abandonnés à dessein, si j'ose dire, c'est-à-dire placés à l'assistance publique par des parents qui font d'une certaine manière le pari que leurs enfants seront aux mains de l'institution plus en sécurité que s'ils les gardent avec eux. Alors c'est difficile de savoir combien sont ces enfants-là, parce que c'est des choses qui ne se disent pas forcément. Lorsque le parent dépose son enfant à l'hospice de la rue d'Enfer Rochereau, il ne va pas forcément raconter que c'est à des fins de dissimulation. En revanche, on a quelques bribes de témoignages qui montrent que, certainement, quelques familles ont pensé que l'assistance publique était un lieu où on pouvait peut-être avoir plus de chances de réchapper. Et de fait, c'est ce qu'on observe, nous, dans les statistiques.
Oui, ça a été un refuge. Vous dites, sur les 195 enfants, 26, quand même, ont été arrêtés.
Oui, alors évidemment, donné comme ça, le chiffre est évidemment, évidemment terrible. Bon, maintenant, en fait, moi, ce que je regarde, c'est la façon dont les enfants, une fois qu'ils sont à l'assistance publique, quel a été leur destin, d'une certaine manière. Et sur les 26 qui ont été arrêtés puis déportés, si l'on regarde bien, ils ont été quasiment tous rendus à leur famille avant de connaître ce sort funeste. Autrement dit, ceux qui sont restés au sein de l'assistance publique jusqu'à la fin de la guerre n'ont pas été inquiétés pour leur part.
Vous, c'est le sentiment que vous avez eu, Charles Wasserstein, d'avoir été protégé
Mais complètement, parce que ce que dit M. Antoine Rivière, ben évidemment, du fait que ma mère m'a déposé... Rappelez-vous la lettre qu'elle a fait écrire, et l'assistante publique était prête à me redonner.
Oui, parce qu'il faut rappeler que votre mère donc ne parlait pas très bien le français, et qu'elle n'a pas compris la différence entre un placement provisoire et un placement définitif.
Oui.
Et elle a voulu vous récupérer.
Mais malgré tout cela, l'assistance publique a quand même accepté sous certaines conditions, malgré la guerre, a accepté de rendre l'enfant à sa mère, sous certaines conditions. Mais avec, comme vous avez expliqué, les lois anti-juives faisaient que les gens ne trouvaient pas de travail, etc. Donc les conditions n'étant pas remplies, elles n'ont pas pu me rendre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des enquêtes qui ont été faites sur ma mère, pour savoir si elle avait un logement, si elle avait un compagnon, etc. Voilà.
Le fait que vos parents n'étaient pas mariés civilement, ça a posé problème, Charles Wasserstein ?
Pour qui ? Pour moi ?
Pour l'assistance publique, justement, pour le rendre à pour vous rendre à votre mère, si ce n'était pas dans les critères.
Alors, je crois que ce n'est pas le fait qu'il n'était pas marié civilement ou non, c'est le fait qu'il ne formait pas un véritable couple. C'est-à-dire qu'en définitive, mon père et ma mère, en 1941, avant de partir à Pithiviers, mon père et ma mère sont venus me voir, sont venus pour me voir, ils ne m'ont pas vu. Et l'employé de l'assistance indique que le père n'a pas l'air vraiment coopérer avec sa compagne pour que les choses soient faites. Donc, ça n'a pas joué du tout. Ce qui compte pour l'assistance publique, c'est qu'il y ait un véritable couple, un véritable foyer et un travail. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Oui, en fait, bon, les raisons qui font que l'administration accepte ou pas de remettre un enfant à sa famille sont assez complexes, c'est un cocktail de plusieurs choses. Et effectivement, ce qui frappe, c'est que pendant la guerre, comme au lendemain de la guerre d'ailleurs, comme avant la guerre, l'assistance publique essaye, autant que faire se peut, de fonctionner de façon ordinaire. C'est-à-dire qu'elle considère les mêmes critères. Et donc, dans le cas, effectivement, de Charles, ce qui posait problème du point de vue de l'administration à partir du moment où votre mère vous a réclamé, c'était effectivement de savoir si oui ou non cette remise était dans l'intérêt de l'enfant. C'est ce que disent les lois de protection de l'enfance de l'époque. Et l'administration a considéré vraisemblablement que rendre un enfant à une femme qui vivait seule, qui n'avait pas de travail, qui connaissait une précarité de logement, on sait qu'elle a été hébergée un temps dans un asile pour mère célibataire, n'était pas dans l'intérêt, avec des guillemets évidemment, dans l'intérêt de Charles.
Mais quand on regarde l'enquête là, pour Joseph Nadavska, là, on a l'impression que l'enquête de l'administration publique, elle est assez dure hein, pour la mère. On a l'impression que ça va au-delà de la réalité.
Alors, dans le cas de Joseph Nadanowska, il faut bien voir que l'enquête n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce n'est pas une enquête après une demande de remise. Mmh. C'est une enquête pour savoir qu'est-ce qu'est devenue la mère. Mmh. Dans les premiers jours qui suivent l'arrivée de Joseph Nadanowska à l'assistance publique, la première question que se pose l'administration, c'est où est la mère ? Y a-t-il un abandon ? Ou est-ce qu'on peut retrouver quelque part quelqu'un qui prendrait en charge cet enfant avant de l'immatriculer comme enfant abandonné ? Et effectivement, là, il y a une enquête de police qui est menée et on apprend peu de choses, finalement. On apprend que cette femme vivait dans un hôtel totalement délabré, qu'elle était apparemment très pauvre, qu'elle vivait seule et que sans doute, c'est ce que dit l'agent de police, elle se livrait à la prostitution sans qu'il y ait rien vraiment qui permette de prouver. Oui. Maintenant, ceci étant, un certain nombre de mères qui abandonnent leurs enfants à l'assistance publique, et c'est le cas sans doute de quelques-unes de ces mères juives pendant la guerre, on sait qu'elles étaient parfois acculées à ce type d'expédient pour pouvoir tout simplement survivre. Hein, donc oui, il y a des femmes qui ont pu se prostituer occasionnellement, qu'elles soient juives ou pas, c'était l'ordinaire d'une certaine manière du public féminin particulièrement misérable de l'assistance publique. Dans le cas de la mère de Joseph Nadanowska, c'est une affirmation qui reste largement péremptoire.
Pour la plupart, ces enfants, ils sont envoyés dans des familles nourricières en province, comme ce fut le cas pour Charles Wasserstein.
Oui, alors là encore, on voit une administration qui fonctionne selon ses habitudes ordinaires, hein, sa culture administrative et bureaucratique, et donc elle applique en temps de guerre à des enfants juifs les règles qu'elle applique aux enfants, je dirais, ordinaires en temps de paix. Et donc il s'agit, une fois que les enfants sont immatriculés, c'est-à-dire pourvu d'un numéro d'enfants assistés, de les envoyer en province dans des familles d'accueil qu'on appelle à l'époque les familles nourricières, avec une géographie relativement conforme à ce qui a été la géographie du placement des sans-famille depuis le 19e siècle.
On m'a posé souvent cette question, comment se fait-il que la Gestapo, enfin la Gestapo à d'autres, les Allemands, n'ont pas pu mettre le nez, justement, dans les registres de l'assistance publique pour retrouver les enfants ?
Et c'est une très bonne question.
J'en profite puisque vous êtes là.
Écoutez, actuellement, je cherche la réponse à cette question et je ne la trouve pas. Parce que c'est vrai que lorsqu'on considère le fait que l'assistance publique a servi d'une certaine manière de refuge pour les enfants qu'on a pu identifier, la première question qui vient immédiatement, c'est dans cette traque des enfants juifs dont on sait qu'elle a été menée dans d'autres institutions, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas eu lieu parmi la population infantile de l'assistance publique qui, je le rappelle, représente à peu près 40 000 pupilles à l'époque. Donc c'est pas une population d'enfants négligeable. Et alors, effectivement, je cherche actuellement dans les archives de la préfecture de police pour voir pourquoi la police française, ni la police française ni la Gestapo, n'a mené cette traque parmi les enfants de l'assistance publique. Et pour l'instant, je n'ai encore rien trouvé. Je ne désespère pas d'avoir des réponses, mais c'est des questions qu'on a effectivement, on ne peut pas faire l'économie de se poser.
Si vous n'avez retrouvé que 184 enfants, effectivement, c'est très très peu. Donc, il n'y a peut-être pas un intérêt considérable à aller chercher parmi ces enfants-là.
Alors, c'est ce que.
Peut-être qu'il y a beaucoup plus d'enfants que vous n'avez pas retrouvés. Ça, c'est notre question.
Quand ce n'était pas écrit qu'ils étaient juifs, comme le cas de Charles, où il était carrément enregistré comme catholique.
Alors, il se trouve que notre identification repose sur des critères très précis. En fait, la question qui nous était posée quand on a mené cette étude, c'était de savoir s'il y avait d'autres enfants juifs qui étaient dans le même cas que Joseph Nadanavska. Mais la question qu'on a dû se poser, c'est qu'est-ce qu'un enfant juif ? Bon. Et là, on était amené à prendre une décision simple, c'était de dire, nous recherchons des enfants qui sont considérés à l'époque comme juifs et donc menacés potentiellement par les mesures antisémites de persécution qui sont prises à l'époque. Voilà le critère qu'on a pris. Bon. Et du coup, on s'est interdit de faire reposer notre identification uniquement, par exemple, sur des éléments d'onomastique, parce qu'on sait que plusieurs chercheurs avant moi l'ont bien montré, se baser uniquement sur le nom pour identifier une population juive et d'autres critères, le lieu de naissance, ne nous suffisait pas, si vous voulez. On voulait être sûr d'identifier un enfant comme étant menacé par les mesures antisémites de l'époque. Et du coup, c'est vrai qu'on a laissé de côté dans notre étude un certain nombre d'enfants dont on a eu connaissance dans les dossiers ou dans les répertoires d'admission de l'assistance publique, pour lesquels on avait de fortes présomptions de la judéité, mais qu'on n'incluait pas dans l'étude, parce qu'on n'avait pas la certitude suffisante. Et c'est vrai qu'on devrait continuer à mener l'enquête, mais c'est une enquête de longue haleine, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a à peu près 400 enfants pour lesquels on a un faisceau d'indices qui nous laisserait penser que ils sont peut-être des enfants juifs.
Ça veut dire que Charles, par exemple, n'est pas dans votre étude, puisqu'il a été déclaré catholique.
Alors non, en fait, Charles n'est pas dans notre étude, mais pour une raison qui est vraisemblablement due au fait que son dossier a été retiré des cartons d'archives au moment où on a mené l'enquête. Ah. Mais la question de savoir, la question, on peut la poser peut-être autrement. Est-ce que si on avait eu des cartons d'archives dans lequel il y avait votre dossier, est-ce que oui ou non, vous aurez inclus votre cas, si j'ose m'exprimer ainsi, dans l'étude ? Et la réponse est oui. Parce qu'il est dit à un moment, même si c'est a posteriori, que vos parents étaient directement menacés par les mesures antisémites, et a fortiori, vous l'auriez été vous aussi si vous aviez, vous n'avez pas été confié à l'assistance publique. Donc de ce fait, on vous aura inclus.
Parce que l'enquête stipule bien le nom de mes parents, des enquêtes extraordinaires. C'est vous-même qui les avez faites, vous avez des enquêtes fabuleuses sur mon dossier. Par contre, si je n'avais pas été récupéré par mon oncle et ma tante, je ne sais pas exactement, finalement, si j'avais eu accès d'abord à mon dossier et ce que je serais devenu.
Vous auriez peut-être appris tout ça bien, bien plus tard. Si vous aviez eu la curiosité, là aussi, de retrouver votre dossier.
Comment ?
Alors, il y a fort à parier que vous n'auriez pas eu connaissance de votre histoire. Alors évidemment, là, c'est de l'histoire fiction, ce qui est un peu difficile, mais on peut malgré tout, en se basant sur d'autres dossiers, encore une fois, suite Joseph Nadanovska nous apprend beaucoup sur les mœurs administratives, il se trouve que vous aviez été immatriculé comme pupille, c'est-à-dire que vous étiez destiné, si vous n'étiez pas
pupille, c'était marqué.
À rester jusqu'à la majorité.
Tout à fait.
Et si vous aviez, comme d'autres l'ont fait, posé des questions à l'administration pour savoir les circonstances de votre abandon, les circonstances ce qu'étaient devenus vos parents, même leur identité, eh bien, vraisemblablement, l'assistance publique vous aurait fait la réponse qu'elle faisait à tous ses pupilles qui avaient cette volonté de savoir, qu'ils soient juifs ou pas. C'est-à-dire, la loi du secret s'impose, nous ne révélons pas l'histoire personnelle des pupilles. Et c'est seulement au tournant des années 80-90 qu'en la matière, les mœurs administratives commencent à changer et que l'assistance publique, devenue assistant, enfin, ASE, aide sociale à l'enfance, commence à ouvrir, pour ainsi dire, ces dossiers et à révéler quelques éléments de leur histoire aux enfants dont elle a la charge. Et
donc aujourd'hui, quelqu'un qui ferait la demande, il aurait accès à son dossier
Aujourd'hui, quelqu'un qui ferait la démarche de se tourner vers l'administration et qui demanderait à avoir des éléments de son dossier, obtiendrait des réponses. Vraisemblablement obtiendrait un accès à son dossier, peut-être avec quelques éléments d'identification de ses parents qui pourraient être cachés, à la rigueur. Mais en tout cas, on lui raconterait les circonstances de son abandon, on lui raconterait ce que le dossier peut dire du sort des parents. En tout cas, on n'opposerait plus cette loi du secret qui vaut mise au secret de ses enfants.
Mais parce qu'il y a aussi les enjeux de réparation, et vous soulignez dans l'étude qu'il y a très peu, finalement, qui ont bénéficié des mesures de réparation dans les années 50-60. Et puis on a finalement aussi la loi de 2000 qui permet aux orphelins de la Shoah de bénéficier d'une rente. Et donc finalement, on peut se dire que dans ces dossiers, il y a peut-être des gens qui ne savent pas, qui pourraient être pupilles de la nation, là, pour le coup.
Oui. C'était le cas. J'étais hier au mémorial de la Shoah avec des amis, et dont un, sa mère était catholique, son père était juif, il a été déporté, il a appris hier, tout simplement, qu'il avait le droit à une rente. Voilà, ce que vous dites, ça s'est confirmé exactement hier. Bah, il faut dire, pour revenir sur les dossiers, qu'en 2001, la personne qui a reçu ma lettre, a demandé à son chef de pouvoir m'envoyer le dossier. Puisque je l'ai rencontré, c'est Nicole Desportes, et donc elle a pris une initiative, puisque ça s'était libéré, c'est vous qui me l'aviez expliqué, ça a commencé à se libérer, donc on est déjà en 2001, et c'est comme ça que j'ai reçu mon dossier. Parce qu'il y avait une libéralisation, il y avait une ouverture en quelque sorte.
Mais sur cette question de l'identification, on va dire, de ces enfants, de la reconnaissance d'un droit à réparation pour un certain nombre d'entre eux, en fait les choses sont assez compliquées. D'abord parce que, encore une fois, il ne faut pas imaginer que l'administration de l'assistance publique à l'époque et l'administration de l'aide à l'enfance aujourd'hui, non mais surtout, il ne faut pas imaginer qu'elle a un registre avec clairement identifié des enfants juifs, les enfants pas juifs, etc. Comment vous dire, on doit faire l'archéologie de l'histoire de ces enfants. On prend un dossier et un dossier ne parle pas si on ne le fait pas parler. Il faut un savoir-faire, c'est extrêmement long et c'est une enquête qui demande des démarches vraiment, vraiment fastidieuse. Maintenant, d'une certaine manière, la question que vous posez est une question de déontologie pour l'historien. Est-ce que, à partir du moment où on identifie des enfants qui aujourd'hui sont devenus des adultes et qui sont peut-être pour certains encore vivants, et qu'on voit qu'ils auraient peut-être le droit à faire valoir une demande de réparation, bon. Qu'est-ce qu'on fait de ces dossiers?
On va connaître leur histoire dans un premier temps.
Oui, mais est-ce que nous, on peut prendre sur nous de débarquer aujourd'hui dans leur vie et leur dire, voilà, nous avons découvert des choses sur vous, nous allons vous les révéler. La question se pose de manière extrêmement aiguë et sans doute dramatique pour les enfants juifs, dont on peut imaginer qu'un certain nombre de parents ont été exterminés. Elle se pose aussi, et je crois que c'est important d'y penser, pour tous les enfants abandonnés. Est-ce qu'on a le droit, en tant que chercheur, historien, de débarquer dans la vie des gens? Certains veulent savoir, sans doute. Mais certains ont peut-être fait le choix de ne pas faire de recherche. Bon, c'est délicat, vous voyez, comme décision. Et en tout cas, moi, pour moi, c'est assez confortable. Moi, je me cache derrière mon métier d'historien et je dis, la décision ne m'appartient pas.
Je vous remercie, Antoine Rivière et Charles Wasserstein. On aurait aimé évoquer encore d'autres questions, notamment la question des restitutions des enfants après la guerre, mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Je signale que le 15 juin prochain, vous participerez à une rencontre au Mémorial de la Shoah, où il y aura également Cathy Azan et Marion Feldman, qui ont publié un livre sur le sujet. Et je rappelle, Charles Wasserstein, que votre livre, Sauvé d'Auschwitz par l'assistance publique, a été publié aux éditions du CERCIL, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.